Bonsoir tout le monde, merci d'être venu. J'ai intitulé aujourd'hui l'intervention qui est dans la suite de l'intervention que j'ai faite la semaine dernière. J'en ai un petit peu parlé puisque j'ai parlé effectivement de l'âme et du corps aussi la semaine dernière. Et là j'ai décidé de mettre un petit terme devant, extase de l'âme et vibration du corps. Pourquoi vibration? Eh bien parce que, comme je l'expliquais un petit peu la dernière fois, c'est que si nous avons une vibration, il y a de fortes chances que la physique puisse l'étudier. Sauf qu'une vibration au niveau du corps, la physique, ça ne suffit pas si le corps est socialisé. Donc si le corps est socialisé, c'est plutôt la philosophie et la sociologie qui vont essayer de s'en charger avec les mêmes méthodes que la physique, ou en tout cas la même approche, c'est-à-dire un maximum d'objectivité. Nous avons vu la dernière fois que le dialogue entre l'artiste et le sociologue peut être compliqué. L'un se place, l'artiste, du côté du talent ou du don, des facultés naturelles du génie. Si ce n'est pas lui qui le dit, il profite qu'on dise de lui que c'est un génie. C'est peut-être un petit plus facile aussi. Rien ne remplace l'émotion face à l'art. L'autre, le sociologue, désenchante plutôt, explique, et quelque part refroidit. Il terrorise aussi, il dévoile. Si vous faites venir par exemple sur un plateau de télévision un artiste et un sociologue, vous constaterez que les discours ne sont pas les mêmes. Donc le dialogue est difficile, voire pénible. Est-ce qu'une amitié est possible entre le sociologue et l'artiste? En fait, ce qui n'arrange pas la relation entre les deux, c'est que leur séparation, tout en étant réelle, puisque vécue dans les corps et dans les âmes, est avant tout historique. Nous reproduisons cette histoire. Plus exactement, nous reproduisons les classements ou les hiérarchies que l'histoire produit en nous. Si je suis pygmé et que je viens ici, bien je constaterai qu'il y a de la musique savante et de la musique populaire. Alors que chez lui, il y aura plutôt de la musique hédoniste et de la musique hédoniste, c'est-à-dire la musique autour du jeu, et de l'autre côté, plutôt la musique rituelle, qui n'est pas la même. Les chuchotements de l'âme. Oui, l'âme, c'est ce qu'on ne voit pas, et donc après. Donc nous reproduisons les classements ou les hiérarchies que l'histoire produit en nous dès les premières expériences affectives de l'enfance. Alors c'est sûr qu'on ne va pas forcément parler à un enfant de musique classique opposée à la musique populaire, de barbare et de civilisé, de bon goût, de mauvais goût, de distingué et de vulgaire, mais il va comprendre un petit peu tout ça. Ah, ça c'est pas bien, ça j'aime, ça j'aime pas, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ce qui m'anime, c'est de démêler en tant que musicien, praticien de la sociologie, les luttes de pouvoir pour la vérité entre les mondes, entre l'art par exemple et la science, entre l'économie et la sociologie, entre la philosophie et la politique, etc., y compris à l'intérieur des mondes de la musique, entre par exemple musique sacrée ou musique profane ou musique classique ou populaire. En identifiant ce qui fait courir chacun après quoi, parce que nous courons après des choses, même si vous ne savez pas que vous courez, c'est une expression, c'est-à-dire nous avons des intérêts, nous avons des croyances, ce qui nous fait courir vers où, comment, etc., selon les époques, les périodes, les groupes, les générations, eh bien, si on fait ce travail-là, on se donne une grande chance de comprendre aussi ce que l'on fait. J'ai illustré ces luttes la semaine dernière, par la polémique entre Gainsbourg et Béart sur art mineur et art majeur. On retrouve un peu ces luttes de vision, qui sont aussi des luttes de division et de révision, un petit peu partout. En somme, c'est un affrontement des goûts, dans des discussions ordinaires, où on échange des idées, des avis, des opinions, en soirée, entre amis, sur le cinéma, l'actualité, La musique, bien sûr, j'aime, j'aime pas. Mais aussi dans des situations moins ordinaires, vous pouvez le constater, sur un plateau de télévision où on invite des gens ordinaires à parler d'eux-mêmes, de leur vie, de leurs opinions. Donc c'est pas nouveau, tout le monde possède des goûts. Mais parmi les goûts artistiques, les goûts musicaux ont une particularité. J'ai essayé de le soulever la dernière fois. Donc si je me répète, c'est par souci pédagogique, je le dirai autrement. C'est un petit peu ça la pédagogie, c'est un peu la répétition. Donc l'écoute, écouter, est reliée à l'âme, à l'intériorité. On parle de musique intérieure. Il n'y a pas de mot pour la musique, ou du moins quand on utilise les mots pour la décrire, c'est souvent un vocabulaire d'émotion, de fascination ou de passion. Pour Kant, la musique est un charme, un mouvement de l'âme. Ça a l'air très positif selon Kant. On verra plus tard qu'il adore la musique, mais il n'arrive pas trop à la comprendre en fait. Parce que comme il est du côté de la raison, nous allons le voir tout à l'heure, eh bien la musique, elle est sans raison. Comme le langage de la religion, quand on découvre une musique qui nous plaît, c'est une révélation. Le miracle du coup de foudre. Le coup de foudre, c'est quoi? On pourrait dire que c'est une attente tapie en nous qui ne demande qu'à se réaliser. C'est le langage de l'amour, en somme. Ça fait beaucoup de résistance à l'analyse et à la compréhension. La Rochefoucauld dit par exemple « Notre amour propre souffre beaucoup plus impatiemment la condamnation de nos goûts que de nos opinions. » Être critiqué sur ses goûts, ce n'est pas être critiqué sur ses opinions. Et nous souffrons beaucoup plus d'être critiqué sur nos goûts que sur nos opinions. En cela, au moins, on peut deviner et vérifier que nos goûts nous expriment et nous trahissent. Sinon, on n'en souffrirait pas s'ils ne nous trahissaient pas, les goûts. Plus que nos jugements. Pourquoi souffrir de cette critique des goûts? Bien, parce qu'un goût, c'est un bien. C'est une propriété, c'est une possession. Et l'expérience musicale, comme les goûts culinaires, est une expérience qui est enracinée dans les corps, dans les humeurs, les sensations, avec, à la clé, des picotements, des hérissements de poils, des chairs de poule. La musique aussi accompagne les souvenirs. Malgré ça, la musique voudrait rester une chose de l'âme. Et elle reste une chose de l'âme. Malgré tout le vocabulaire ou toute l'explicitation qu'on essaye d'apporter sur la vibration, sur quelque chose de concret, sur quelque chose de corporel. Grâce à l'esthétique savante et tout son corpus de discours cultivés sur la culture, la musique se prend pour un art pur par excellence. N'en déplaise aux théoriciens du bon goût, la musique, elle tient à rester le plus spirituel et le plus mystique de tous les arts. Quel auditeur de la haute culture accepterait de voir dans ses goûts épurés ou ses goûts sublimes ou sublimés le corps d'une explication anatomique qui passerait par exemple par les conditions d'existence? C'est quoi les conditions d'existence en sociologie? C'est par exemple la classe sociale. Quelle grossièreté, quelle vulgarité! Car le corps social, c'est aussi l'habitacle d'un inconscient de classe grâce à ses classements objectifs. Je fais une petite parenthèse qui va peut-être sembler facile. Quand on parle de cinéma, par exemple, on dit écoute, j'ai vu un film, vraiment, bon, ce que je vais te dire, c'est subjectif, mais ce film m'a plu pour ceci, pour cela. Eh bien, en fait, ce classement qui se dit subjectif est en fait objectif. Si toute forme de classement subjectif est objectif, c'est parce qu'un classement, c'est une catégorisation. Donc en fait, nous sommes des êtres théoriques sans le savoir, parce que nous classons. Et ce classement fait de nous des êtres objectifs, mais qui ignorent cette objectivité, qui formule plutôt la subjectivité. C'est ce qu'on appelle, enfin nous possédons tous, ce qu'on appelle des présupposés théoriques, c'est-à-dire des grandes idées très courtes qui nous permettent de penser le monde et de l'appliquer dans différents sujets. On est donc tous concernés. Alors, je vous ai dit quelque chose de très rapide, hein, en vous parlant de l'objectivité, la subjectivité. Ce sont des choses que je n'ai pas peur d'utiliser, ce sont des gros mots. On Je les appelle les gros mots parce qu'ils font peur. Subjectivité, objectivité, ça fait peur. Croyez-moi, quand on a l'habitude de les manipuler, alors de les manipuler, bien sûr, pas pour manipuler votre oreille, c'est-à-dire ce, en tant que récepteur, mais pour manipuler, en fait, l'autocensure que je pourrais pratiquer sur moi-même parce que subjectif et objectif me fait peur. Donc je ne les utilise pas. Donc l'idée, c'est de désenchanter un petit peu les gros mots pour ne pas laisser ça aux intellectuels. Pour ne pas laisser ça à ceux qui les pratiquent, c'est-à-dire objectivité, subjectivité, sont des mots qu'on trouve dans les livres, en gros, ou dans les articles, ou chez les spécialistes. Bon, mais c'est tout à fait possible aussi pour vous, pour nous, de les manipuler, ou en tout cas de les utiliser. Et cette idée d'objectivité, c'est-à-dire de classement, si, en disant ce que j'aime, je classe, eh bien en croyant cette opinion comme étant subjective, elle est objective. Elle fait partie des classements sociaux, des classements de propriété, comme je vous le disais, des classements de biens, et les goûts, bien évidemment. Ainsi donc, si la musique n'a pas besoin de mots, à part ceux de l'intériorité, c'est qu'elle ne dit rien, elle n'a rien à dire. À moins qu'elle essaye de communiquer sur un autre mode. Et cet autre mode, ça serait, c'est une proposition, celui de renoncer à des profits que procure l'exhibition des signes de reconnaissance. À refuser, à renoncer au profit de la délectation lettrée. C'est une expression de Bourdieu, délectation lettrée. Pourquoi refuser au profit que procure une exhibition des signes de reconnaissance? Vous voyez très bien ce que ça peut être. Les mondanités, par exemple. Les mondanités, il ne suffit pas d'être à Paris et d'être dans une société bourgeoise ou une société impériale pour faire des mondanités. Les mondanités, ce n'est pas négatif. Les mondanités, ce sont des relations sociales où on va exhiber des signes de reconnaissance. Des signes de reconnaissance qu'on va imposer aux autres, du moins essayer de convaincre les autres que c'est un point de vue qui vaut le coup d'être défendu. Eh bien, renoncer à ses profits, c'est, d'un point de vue philosophique, rechercher une forme d'humilité et ne pas avoir peur d'avoir une identité un peu spécifique ou singulière pour essayer de comprendre ce que je suis en train de classer, qui je suis, ou ce que peuvent être les autres. Quelque part, ça ressemble à de l'abnégation. Refuser les profits que peuvent procurer, par exemple, une position sociale. Vous saisissez? C'est pas facile. Par exemple, les positions de pouvoir. Les positions de pouvoir ne sont pas seulement sociales. Les positions de pouvoir, c'est aussi, à chaque fois qu'on a un souci, un problème, ou qu'on constate des erreurs, c'est essayer de prendre le pouvoir sur cette erreur de façon à reprendre du poil de la bête, comme on dit. C'est encore une chose corporelle. Ou pour faire du bien à l'âme, aussi. Ou par hygiène mentale, comme on veut. Vous voyez la tête, le cœur, l'âme, on est perdu. Mais bon, c'est toujours la même personne, a priori. Donc ça pourrait être un drame pour un musicien, c'est-à-dire de renoncer à des profits que peut procurer une exhibition de signes de reconnaissance. Mais en fait, ne croyez pas que c'est un drame, parce que ça lui va très bien. Pourquoi? Parce que s'il peut être vu comme un magicien, une icône, une star, un serviteur de la magie sociale, c'est parfait. L'enjeu étant de maintenir dans une forme de passion, chez le fan, une forme de prophétisme, de croyance, et... excusez-moi, d'ignorance, donc, et particulièrement de nos jours, dans les aspects qu'on peut constater sur le fanatisme autour du sport, de la variété ou du cinéma, etc. Donc, si la théorie de l'esthétique et son goût pur est une réponse métaphysique à un refoulement de ce qui se trouve ici-bas, c'est-à-dire les choses vulgaires, si elle est un refus du facile au sens du simple, donc sans profondeur, et du goût impur, elle n'aurait pas d'autre fonction expressive que de représenter une forme radicale et absolue de dénégation du monde social, avec tout ce qu'il contient, ce monde social, c'est-à-dire la vision esthétique dans tous ses états. Vous comprenez? Je vous la refais. C'est une longue phrase. Bon, si la théorie de l'esthétique et son goût pur, c'est une réponse métaphysique
un refoulement de ce qu'il y a ici-bas, c'est-à-dire le corps, les choses vulgaires. Oh, t'as un goût vulgaire, oh, c'est un goût vulgaire, les ouvriers ont des goûts vulgaires sur la musique, c'est facile, c'est une écoute facile, etc. Si c'est aussi un refus du facile, au sens de simple, donc sans profondeur, c'est une forme de goût impur, c'est une barbarie. La musique n'a pas d'autre fonction expressive, peut-être, que de représenter une forme radicale et absolue de dénégation du monde social, c'est-à-dire de nier le monde social tel qu'il est, avec toutes ses esthétiques, à la fois vulgaires, à la fois populaires, ses esthétiques pygmées, ses esthétiques de l'art africain, ses esthétiques, toutes les esthétiques. L'esthétique, la définition de l'esthétique est détenue historiquement par une forme de légitimité. Au risque de choquer les amateurs, les artistes, donc moi-même peut-être, les praticiens, les esthètes, les mélomanes et les amoureux d'eux-mêmes, la musique est là, en un sens, le plus bourgeois, car c'est celui qui parle sur le mode des choses et du monde, des sentiments, des expériences, sur un mode tel qu'il n'en parle pas. C'est-à-dire que la musique refuse de reconnaître le monde tel qu'il est. Dire qu'on aime telle ou telle musique semble livrer des choses intimes de soi. J'aime ceci, j'aime cela. On pense qu'on livre des choses intimes de soi. Des choses donc personnelles, singulières, personnifiées. Alors qu'en fait, on ne livre pas grand-chose, à part notre appartenance sociale et nos vies, nos classements, nos dégoûts. Car le goût, et je paraphrase Bourdieu, c'est avant tout le dégoût du goût des autres. Belle phrase, enthousiasmante. Le goût, c'est avant tout le dégoût du goût des autres. Et c'est vrai que le mauvais goût des autres est très dur à vivre. Et quelque part, l'intolérance esthétique, c'est une forme de violence. Pour Kant, la forme, elle est pure. Donc, tout ce qui est formel est important. Contrairement à la couleur et sa séduction, quasi charnelle. Pourtant, il ne tarit pas d'éloge sur la musique, mais il condamne ou refoule les sensations indicibles qu'elle procure. La musique pose problème à la raison, car elle n'incite pas du tout à la réflexion. Ça, c'est pour Kant. Elle pose problème parce qu'elle n'incite pas à la réflexion. En tant qu'expression d'une indicible plénitude de pensée, ce sont ces termes à Kant, elle communique une idée esthétique qui n'est pas conceptualisable. Donc une indicible plénitude de pensée, c'est-à-dire on se dit, oh, c'est volatile, on est dans plein de pensées à la fois. Donc si on est dans plein de pensées à la fois, c'est une idée esthétique qui n'est pas conceptualisable, parce qu'elle n'est pas du côté de la raison. Je vais vous lire un passage d'un texte qui s'appelle « Éléments pour une critique vulgaire et des critiques pures » de Bourdieu, et qui part de Schopenhauer. Schopenhauer, musicien. Schopenhauer établit, entre le beau et le joli, une opposition tout à fait identique à celle de Kant, dans la critique du jugement, entre le plaisir et la jouissance, le beau et l'agréable, ce qui plaît et ce qui fait plaisir. Définit le joli comme ce qui stimule la volonté en lui offrant directement ce qui la flatte. Donc si on est dans le côté de la flatterie, Kant a du mal, en tant que chercheur de la raison, il a beaucoup de mal avec ce qui flatte, ce qui est joli. Et vous allez voir que le joli, ce n'est pas le beau. Ce qui séduit infailliblement la volonté, par la vue des objets, qui la flatte immédiatement. Et, chose significative, réunit dans la même condamnation les deux formes de satisfaction, orale et sexuelle, contre lesquelles entend se constituer la satisfaction reconnue comme proprement esthétique, c'est-à-dire la forme intérieure du joli, la forme, pardon, inférieure du joli, se trouve, dit-il, dans les tableaux d'intérieur des peintres hollandais, quand ils ont l'extravagance de nous représenter des comestibles comme de véritables trompe-l'œil qui ne peuvent que nous exciter l'appétit. La volonté se trouve par là même stimulée, et c'en est fait de la contemplation esthétique de l'objet. Donc, ça continue à citer. Comme le dit Schopenhauer, très proche en cela de Kant, et de toutes les esthétiques où s'exprime sous une forme rationalisée l'éthos de la fraction dominée de la classe dominante, le joli qui réduit le pur sujet connaissant, affranchi de la subjectivité et de ses désirs impurs, qui est un sujet volontaire, soumis à tous les besoins, à toutes les servitudes, exerce une vraie violence sur le spectateur. Donc il faut que le spectateur, avec le joli, avec le sensible, s'en sépare, parce qu'en fait, la contemplation du beau, c'est la distance. C'est ce qui permet de sortir de la jouissance, pour Kant et Schopenhauer. Voilà, le goût pur, le pur sujet connaissant. Impur, vraie violence sur le spectateur. Indécent, exhibitionniste, il s'introduit et s'impose, entraînant le corps par son rythme, la notion de rythme, qui est aussi à condamner parce qu'elle n'incite pas à la raison. Entraînant le corps par son rythme, qui est en affinité avec les rythmes corporels, captivant l'esprit par le trompe-l'œil de ses intrigues, de ses suspenses, de ses surprises, lui imposant une participation réelle, en tout opposée à la distanciation et au désintéressement du goût pur. Pour avoir un goût pur, il faut être désintéressé, il faut être distant, il faut se séparer de la jouissance. Et voué aussi à faire paraître aussi déplacé que Don Quichotte, lorsqu'il est emporté par la fureur, eh bien en fait, devant un spectacle fictif, il se met à tout détruire, par exemple les marionnettes de Maître Pierre. Donc on voit bien dans cette vision de Kant que le goût pur, l'esthétique du goût pur doit se séparer de la jouissance. Bon, c'est bien évidemment une position avec un enracinement social, on s'en doute. D'où l'intérêt de comprendre scientifiquement une chose, c'est-à-dire en identifiant un monde, un espace, avec des gens dans ce monde, et cet espace est le rapport entre tous les mondes dans une hiérarchie des mondes. Vous comprenez, c'est pas de la dialectique, ça peut y ressembler. Kant d'ailleurs est fasciné aussi par Kepler parce que c'est l'approche mathématique, encore une fois, du nombre et de la nature. Donc il y a encore une approche mathématique sur la raison. Voilà. Tout ça, ça fait une explication quelque part philosophique qui peut être intégrée dans les catégories sociales de perception, selon les catégories sociales, par exemple les catégories sociales supérieures, qui définissent l'art comme étant une légitimité pour eux, parce que le goût n'est pas vulgaire, le goût n'est pas impur, mais il est pur. Donc comprendre une œuvre musicale ou autre, c'est travailler sur la genèse des choses. C'est les relations microcosme-macrocosme. Ce sont les intrigues. C'est aussi le rapport au pouvoir. En gros, c'est l'histoire. Ou ce qu'on appellerait de manière plus précise l'historicité. C'est-à-dire de faire de l'histoire une histoire sociale, une histoire critique. Et non pas se contenter de l'histoire, puisque vous savez que l'histoire est écrite plutôt par les vainqueurs. Donc il y a des historiens qui se situent sur une histoire populaire. C'est-à-dire du côté des vaincus. Un très bel ouvrage que vous avez peut-être lu, de Wardy, sur l'histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours, parle en fait de tous ces... Alors, pas seulement, parce qu'on pourrait s'imaginer, ben, l'histoire populaire, si ce sont les vaincus, donc en fait ça va être les Noirs et les Afro-Américains et les Indiens. Eh bien non, pas que. Ce sont aussi les Blancs, c'est-à-dire les agents sous contrat, qui était censé montrer patte blanche pour aller travailler dans les colonies et qui était complètement dominé, c'était en quelque sorte une population servile. Alors si c'est l'histoire, tout le monde peut comprendre l'histoire. Parce que tout le monde aime les histoires. Et en quelque sorte, tout le monde envie les histoires. Alors si vous ne croyez plus aux histoires, c'est plus mon problème, hein. Donc vous n'avez plus le côté enfantin, d'ailleurs le côté enfantin qui est aussi refoulé par Kant ou par tous ceux qui pensent qu'en fait les goûts simples doivent être niés. Hein, tout ce qui est le goût pur n'aime pas la facilité. Hein, tout ce qui est facile n'aime pas. Alors que justement dans notre vie, on cherche un peu les choses faciles ou du moins les choses simples. On dit souvent il faut être simple. Bon, qu'est-ce que ça signifie être simple? Est-ce que c'est pas se débarrasser peut-être de cette notion de simplicité qui consiste à croire que les choses simples sont sans profondeur? On parlait du désenchantement. Les choses sans profondeur, les choses simples, peuvent être des choses très complexes aussi. Encore un peu dialectique, excusez-moi, je me rends compte en le disant. Donc si vous ne croyez plus aux histoires, c'est que vous n'êtes plus des enfants. Bon, d'accord. Y a-t-il des enfants dans la salle? Tout le monde devrait lever la main, normalement. Merci. Je la lève aussi, les deux, même. Eh bien, si vous n'êtes plus des enfants, essayons d'utiliser, ou en tout cas de savoir à quoi peuvent servir les principes de l'enfance, c'est-à-dire les principes qui sont liés à l'apprentissage, à l'imagination, à la naïveté. Les questions naïves sont souvent les plus pertinentes. Vous voyez, par exemple, dans les dialogues, dans les dialogues, tu as un exemple de Galilée. Voilà, Galilée, dans un de ses ouvrages où il fait discuter des individus pour les systèmes des mondes, pour défendre ses idées, il utilise le dialogue platonicien, il utilise le même principe, c'est-à-dire que il y a celui qui sait, il y a celui qui va répondre et qui va critiquer à celui qui sait, et il y a le profane. Et bien en fait, on va mettre ensemble le profane et le savant, parce que le profane va toujours poser de bonnes questions, parce que idéalement, le profane sait écouter. Donc il va mettre devant, il va mettre l'autre, celui qui va parler ou celui qui va donner son avis ou qui va expliquer, il va le mettre devant ses contradictions. Ça ne vous fait pas penser à quelqu'un, ça? Socrate. Quand il dit « il n'y a qu'une seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien », c'est-à-dire qu'il joue le rôle du profane. Il joue le rôle idéal de quelqu'un qui pose les bonnes questions parce qu'il sait écouter. Donc ça voudrait dire ne pas avoir de préjugés a priori. Une phrase de Cassirer, Ernst Cassirer, qui dit « l'imagination est le vivant véhicule de la perception. Elle lui indique la voie, lui donne sa vigueur, sa rigueur et son exactitude. » Il n'y a pas un seul moment dans l'histoire des sciences ou l'histoire des arts où l'imagination, en tant que principe de composition, n'est pas mobilisée. L'imagination, c'est un véhicule. Donc qu'est-ce que ça signifie, bien sûr? Qu'est-ce que c'est que l'imagination? Comment on peut imaginer? Sachez aussi que on dit que toute... Bachelard dit ça, que toute science est à la base métaphysique. Donc c'est-à-dire qu'elle part d'une intuition. Et ensuite, certes, les intuitions marchent, mais ces intuitions sont efficaces lorsqu'elles sont vérifiées. Donc, avons-nous des intuitions? Sans doute. Ces intuitions sont-elles vérifiables? Prenez-vous le temps de vérifier vos intuitions, quelles qu'elles soient d'ailleurs. C'est intéressant. Et quelque part, la science et l'art ont en commun la composition, ont en commun aussi les références, c'est-à-dire le fait de se situer dans une histoire de pensée, et quelque part un vrai révolté, ou du moins un vrai révolutionnaire, c'est pas quelqu'un comme on croit qui fait table rase. Un vrai révolutionnaire, c'est pas Pol Pot, bien que lui-même se disait révolutionnaire. Un vrai révolutionnaire, c'est quelqu'un qui utilise le passé, qui se place dans le passé, et qui place son idée, ou en tout cas ce qu'il défend, dans une continuité. Il prend le train en marche d'une continuité de référence, d'une continuité d'hommage quelque part à des pères ou d'hommage à ceux qui ne sont plus là. Donc c'est une forme d'accès à la science. Je cite Bachelard, accéder à la science, c'est spirituellement rajeunir, c'est accepter une mutation brusque qui doit contredire un passé. Donc je vous parle du passé, hommage, etc. Mais ça doit contredire un passé dans le sens où il faut une rupture. Une rupture avec ce qui est acquis. Parce que la recherche de l'imagination en tant que liberté, ou de l'imagination libérée, c'est rompre, c'est faire un travail de rupture. Donc j'aime bien la formule de Bachelard, qui pourtant défend la rationalité, hein, le rationalisme. enfin lui applique le rationalisme dans son célèbre livre Le rationalisme appliqué, il dit accéder à la science c'est spirituellement rajeunir. Bon, ça fait plaisir, c'est-à-dire que même si on est un peu ancien, on peut espérer rajeunir. Alors comment? Non pas par des méthodes biologiques ou esthétiques peut-être, mais de manière spirituelle. Et quelque part, comprendre scientifiquement une chose, c'est aussi, certes, spirituellement rajeunir, parce que c'est être capable d'être à la place du profane ou d'être à la place du naïf, mais ce n'est pas que ça. C'est aussi être capable, non pas d'aimer, mais de changer de point de vue. Je vous parlais la dernière fois de changer de point de vue avec, avec Pascal, qui dit « je suis un point compris dans un ensemble ». C'est pas exactement ça, mais en gros, c'est ça. Je suis un point compris dans un ensemble et je me comprends autant que l'ensemble me comprend. Donc la notion de compréhension n'est pas liée à une religion, n'est pas liée au christianisme, par exemple. C'est lié véritablement à un travail spirituel de compréhension. Et ce travail spirituel, c'est, il peut être vu dans les romans, par exemple, de Flaubert, comme je vous disais aussi la dernière fois, de Zola, de Faulkner, de tous ceux qui font le work in progress, c'est-à-dire qui essayent de mettre dans leur écriture une analyse personnelle, une analyse critique, le work in progress. C'est le travail en train de se faire. Pour illustrer les goûts, ces esthétiques, il y a un texte des esthétiques vulgaires, pas vulgaires, nobles, ignobles, etc. Il y a un très chouette article qui est très simple à lire. C'est un article de Michel Bozon avec un chant local. Il utilise un chant local à Villefranche-sur-Saône et il identifie dans cette ville un chant local, donc musique. Il travaille sur la musique, en tout cas dans cet article, il travaille sur la musique, et il identifie dans cette ville des associations de musique, avec la hiérarchisation de ces associations de musique. En tête, nous avons l'école de musique, la plus légitime pour la municipalité, au détriment de la fanfare, de l'harmonie, de l'orchestre symphonique, de l'amicale des accordéons, des trompes de chasse, des groupes folkloriques et des choristes. Donc cette légitimité, elle se construit avec l'histoire. C'est-à-dire que si on veut s'interroger sur la hiérarchie qui est établie dans ce champ local, Villefranche-sur-Saône, avec les associations de musique, eh bien, il faut essayer de rechercher dans la genèse de ces mouvements les origines, toujours pareil, hein, c'est très important, les origines de cette hiérarchisation. Alors comprendre les goûts, les classements, à quoi ça sert pour un musicien de s'associer au sociologue ? Vous pourriez dire, bon, c'est bien beau tout ça, mais c'est trop facile, t'as fait des études de sociologie, t'es musicien, voilà, t'essayes de valider les deux, et puis tu t'en contentes. Bon, ben, prenons par exemple le monde des musiques dites actuelles. Alors je ne sais pas si vous savez, pour ceux qui ne pratiquent pas la musique, bon, qui l'écoutent certes, mais le monde des musiques actuelles, alors je l'appelle le monde, hein, alors de suite il ne faut pas s'imaginer un film américain. Le monde, c'est-à-dire que c'est comme si je parlais d'espace social, si vous préférez. J'appelle ça le monde pour que ce soit simple à comprendre. Eh bien, le monde des musiques actuelles, ce sont toutes les musiques en fait, qui sont issues, enfin, c'est un classement aussi du gouvernement, hein, du gouvernement de l'État, parce qu'il fallait bien penser tous ces jeunes, ces adolescents qui jouent de la guitare électrique, franchement. Qui s'habille bizarrement, un look qui est un petit peu bizarre, bon, mais il fallait bien les classer, ces gens-là, s'en occuper, hein, ces fameux adolescents, ces sauvageons. Donc les musiques actuelles, ce sont des musiques électriques, c'est-à-dire pas des musiques acoustiques. Les musiques actuelles, ce sont par exemple le rock, le métal, le hip-hop, les musiques du monde. Hein, vous remarquez, on met les musiques du monde, hein, comme je vous avais dit la dernière fois, les musiques du monde, c'est tout ce qui n'est pas nous, donc en fait c'est du monde. Vers les étrangers, les musiques du monde. Bon, très bien. Ben, et nous, on pratique ça aussi, on dit les musiques du monde. Je n'ai jamais rencontré personne dire à quelqu'un qui l'avait entendu de quelqu'un, j'aime les musiques du monde, dire, mais les musiques du monde, ça veut dire quoi, etc. Alors qu'on l'aurait peut-être traité de fou aussi. Donc, bon, des fois, on est un petit peu consensuel. Bref, les musiques du monde, qu'est-ce qu'il y a encore? Le jazz aussi, toutes les musiques de jeunes, en fait.
c'est-à-dire issu de ce mouvement de production musicale des années 60, des années yéyé entre autres, c'est-à-dire quand l'industrie du disque avait compris qu'on avait là une jeune génération qui avait de l'argent. Voilà. Donc, jeune génération qui a de l'argent, eh ben, on va vous faire acheter des disques, on va vous faire acheter Salut les copains, on va vous faire acheter, etc. Et puis là, ça y est, c'est des années yéyées qui n'ont pas duré bien longtemps, mais qui ont marqué quand même les consciences avec tous les chanteurs de variété, avec des paroles, bon, pas très engagées socialement. C'est vrai que quand 68 est arrivé, bon, ils se sont retrouvés un petit peu bêtes. Bon, ils ont continué, mais... Alors, tout ça, c'est les musiques d'actuels. Alors, j'ai fait la parenthèse sur les yéyés, excusez-moi, mais bien sûr, il n'y a plus de chanteurs de yéyés aujourd'hui. Quoique, la chanson française, des fois, au niveau du contenu des paroles, on pourrait se demander ce qu'ils racontent. Enfin, souvent, d'ailleurs, si on fait une analyse sémantique, enfin, une analyse du texte, c'est souvent ma petite copine, mon petit copain, l'appartement, la colocation, etc. C'est super engagé, quoi. Ça fait plaisir. Voilà, avec une musique en plus, on ne peut pas dire qu'on soit dans le folk américain, quoi, non plus. Hein. Quand vous écoutez le folk américain, c'est vrai que les arrangements musicaux, bon, alors, c'est historique, encore une fois, parce que la musique, aux États-Unis, c'est quand même sacrément quelque chose. Eux, au moins, ont réussi ce que nous avons échoué, c'est-à-dire l'intégration des esthétiques noires dans leur musique blanche. Ce que nous n'avons pas fait. Ce que nous faisons de temps en temps, mais sous forme édulcorée ou exotique, avec des petits titres ou des petits rythmes. Tiens, un rythme cubain, une petite chanson sur l'Afrique, voilà. Ou comme je vous le disais la dernière fois, dans les paroles de, comment s'appelle-t-elle, Céline Dion, les marabouts d'Afrique et tout, alors on ne sait même pas ce que c'est, mais voilà. J'irai chercher ton nom. Non, ça vous dit rien?
C'est quoi la flèche?
Comment?
C'est Goldman.
Ah, ben voilà. C'est Goldman qui a écrit. Bon, ben, c'est Dion qui chante. Bon, mais Goldman, bon, ben voilà. C'est vrai qu'il parle pas des camps de concentration aussi. Alors qu'il pourrait. Non, mais c'est vrai. Mais bon, il a décidé, comme d'autres, de nier un peu l'histoire. Bon. Alors que lui aurait été. Ben, pourquoi pas? Regardez Léo Ferré, il n'hésite pas. Oui, non, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas chanter des choses sur des exterminations ou des génocides de manière distancée. Ça n'empêche pas, bien sûr. En fait, toutes ces musiques dites actuelles, voilà, on les classe aujourd'hui, c'est-à-dire on s'en occupe, le gouvernement s'en occupe, l'État s'en occupe plutôt que le gouvernement, l'État s'en occupe et on va s'occuper des jeunes, quoi. Il faut que ces jeunes quand même puissent jouer sur scène, il faut que ces jeunes puissent avoir des formations pour savoir ce qu'est le métier de musicien, etc. Bon. Eh bien en réalité, dans ce monde, il fonctionne essentiellement sur les goûts. Lui aussi. Des professionnels du spectacle, par exemple. Ils sélectionnent l'artiste sans une véritable expertise d'originalité. Tout est goût personnel. Le goût du professionnel, c'est l'expertise, c'est sa grille de lecture. La sensation, c'est l'intuition, et c'est professionnel. Autant dire l'arbitraire. Dans les salons de professionnels, par exemple, parce que vous savez, il y a des gens qui achètent des spectacles. Hein, bon, vous allez sans doute des fois au concert, alors peut-être plus au cinéma d'ailleurs qu'au concert. Voilà, ces programmations, qui programme, pourquoi programmer ça, c'est peut-être pas des questions qu'on se pose, c'est plutôt des questions que je me pose, mais bon, pas que sur la musique, hein, on peut se poser ces questions sur plein d'autres choses. Donc dans les salons de professionnels, par exemple, de professionnels de la musique, on ne parle jamais d'art ou de la place de l'artiste dans la société. Comprenez, parler d'art et de concept artistique, c'est un peu compliqué. C'est pour les autres mondes de l'art, les plus légitimes. Donc vous voyez que la musique, encore, elle hérite quelque part d'une absence de discours politique. C'est-à-dire, ça me plaît, ça ne me plaît pas, c'est ça l'expertise pour sélectionner un groupe. Donc le concept, c'est un peu compliqué, c'est pour les autres mondes de l'art, les plus légitimes.
la musique classique, la musique contemporaine, baroque, peinture, théâtre, etc. Alors ça ne veut pas dire qu'ils en parlent. Et justement, en n'en parlant pas, ils n'ont pas besoin non plus de comparer avec une forme de musique qui pourrait s'y comparer. Donc une manière aussi de dénégation. On ressent, et point. Et tant pis si un rendez-vous avec un artiste ou des artistes est manqué. Ce qui fait que ce secteur, le secteur des musiques actuelles, subit de plein fouet, en interne, une forme de paupérisation et d'autocensure autour de ces questions de légitimité, d'autodéfense et de réflexivité. Allergique au discours que pourrait tenir ou même apporter un musicien en tant qu'acteur, témoin et praticien, ce secteur professionnel, en quelque sorte, nie une forme d'analyse sur lui-même. Alors pourtant, il fait des colloques, hein, les musiques actuelles, il faut repenser les musiques actuelles, la diffusion dans les musiques actuelles, les artistes dans la musique actuelle, comment aider la musique actuelle à sortir. En gros, c'est quoi? C'est s'occuper des jeunes et de leur proposer une forme enfin, les jeunes. Oui, c'est fait pour ça, a priori, musique amplifiée. Ce qui pourrait donner l'impression que c'est pour les jeunes, c'est que des fois, dans les salles de concert, on distribue des bouchons parce que c'est trop fort. Voilà, je vais te régler le son, par exemple. Donc, de suite, c'est vulgaire. Donc, ce secteur professionnel nie une forme d'analyse sur lui-même. Analyse que produisent pourtant certains jeunes sociologues, acteurs de la vie musicale. Il y a des analyses qui sont faites pour essayer d'aider aussi à comprendre ce monde des musiques actuelles, c'est-à-dire les difficultés. Les difficultés, c'est quoi? Les difficultés, c'est une société quelque part d'écoute, une société de consommateurs à deux vitesses. C'est qu'il y a des jeunes qui ne vont jamais au concert et qui écoutent beaucoup ce qui se passe à la radio et à la télévision, en choisissant leur radio et leur télévision et la chaîne, mais en revanche, sortent beaucoup moins en concert, c'est-à-dire aller chercher la musique ou la vivre en intérieur. Et si jamais certains jeunes sortent, les mêmes d'ailleurs dont je parlais, je n'ai pas les noms, mais vous voyez ce que je veux dire, ces jeunes qui sont dépendants un petit peu de tout ce qui sort à la télévision ou à la radio, ou sur le téléphone aussi, puisqu'on peut télécharger la musique. Alors, télécharger la musique, mais quelle musique? Quelles sont les grandes firmes de téléphone qui ont des alliances avec quelles boîtes de production, etc. Bon. Eh bien, ces jeunes, quand ils se déplacent pour aller voir des concerts, ils vont voir des grands concerts, des gros artistes, c'est-à-dire des grands chanteurs de la variété internationale ou de la variété française. C'est-à-dire, quand je vous parle de société à deux vitesses, c'est que on est du côté en haut, il y a en haut les artistes, ceux qui sont connus et reconnus, et en dessous, il y a, mais bien loin en dessous, il y a les artistes qui ne sont pas connus. Et ils vous diraient dans leur discours qu'ils rament, que la vie d'artiste est compliquée, etc., etc. Donc ce secteur des musiques actuelles, il est jeune. Et comme tout nouvel entrant, c'est-à-dire tu es nouveau, tu veux rentrer, il devrait prendre un peu plus au sérieux l'argumentation de sa place dans le monde de la musique, parmi les institutions comme parmi les acteurs. Jeune, par exemple, c'est... Un problème artistique pour les jeunes, par exemple, ceux qui n'ont pas fait d'école de musique, et qui jouent de la guitare en autodidacte. Et bien en fait, ils naissent dans un contexte de médiatisation, de l'industrie du disque, des mass médias, le rock, et ils vont chercher eux-mêmes, par eux-mêmes, des inspirations dans les années 60, puisque le rock, c'est originaire des années 60. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que le rock originaire des années 60, c'est que l'électrification des instruments s'est répandue dans le monde entier. C'est-à-dire que si je vous parle par exemple de la musique africaine des années 60, vous allez me dire, mais c'est quoi la musique africaine des années 60? Peut-être que vous allez me citer quelques groupes, ou en tout cas des chanteurs connus, des musiciens, Manu Dibango par exemple, qui a sorti son épingle du jeu, voilà. Il faudrait s'intéresser aussi à comment le gars a réussi à sortir son épingle du jeu. Bon, c'est peut-être pas un noir comme un autre, mais a priori...
En France.
Oui, et puis en France, tout à fait. Il y a aussi Tori Kounda dans les années 80, mais quelque part, la musique électrique africaine, on la connaît pas très très bien. Et beaucoup de groupes ont disparu après les années 60, un peu comme chez nous. Mais c'est une musique à l'esthétique très engagée, à l'esthétique révolutionnaire, parce qu'elle est née aussi dans les bars. Ça nous fait penser à la musique de cabaret aussi qui est née dans les petits cabarets et pas forcément à la télévision, en France aussi dans les années 50. Donc on a un problème de surmédiatisation, on a une problématique en tout cas de surmédiatisation et de choses qui nous dépassent complètement quand on écoute. Voilà. Et c'est ce qu'on nous propose. Si les jeunes arrivent avec un discours, etc., de suite, ou en tout cas on mettra beaucoup plus de temps à les accepter parce qu'ils ont un discours. Donc ça veut dire quoi? Que si on s'imagine que les musiques actuelles, ce sont des musiques dévalorisées, enfin dévaluées plutôt, ou dépréciées selon un système légitime, ça signifie donc qu'elles n'ont pas le droit, ou elles n'ont pas le droit au discours. C'est-à-dire au discours qui permettrait de critiquer, au discours qui permettrait de se comprendre et d'essayer de se sortir d'un système de non-dit, un système qui n'accepte pas le discours. Donc, cette expertise des programmateurs, par exemple, qui disent « ça me plaît, ça ne me plaît pas », cette expertise suffit, pose un véritable problème pour faire sortir d'une société en crise des artistes, de réels artistes, qui apporteraient, en complément de ce qui nous manque, c'est-à-dire une forme de critique intellectuelle, parce que bon, les intellectuels, ils ne nous aident pas non plus, quoi. Alors, quels sont les artistes et les intellectuels qui sont normalement des machines à faire penser, parce que même l'artiste est une machine à faire penser? Que deviennent-ils? Où sont-ils? Où sont nos guides, quoi? Voilà. En gros, qu'est-ce qui nous manque comme père pour essayer de mieux comprendre et de s'attacher à quelque chose? Donc le constat n'est pas très bénéfique sur la position de l'artiste et la position de l'intellectuel. En tout cas, ils ne sont pas aussi nombreux qu'avant. Et surtout, l'industrie du disque ne les défend pas forcément. Parce qu'à l'époque, on avait l'industrie du disque avec les chanteurs engagés qui étaient ensemble, les années 50 et les années 60. Avec Brassens, on l'a tous connu, parce qu'on habite à Paris, mais parce qu'il y a eu des disques. Voilà. Léo Ferré, c'est la même chose. Qui c'est qu'il y a eu encore Brel, c'est la même chose. Voilà. Ce sont des musiciens, en tout cas des compositeurs et des chanteurs, très spécifiques, avec lesquels l'industrie du disque était marché. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et c'est pour ça, mais ça, peut-être qu'on en discutera une autre fois, sur l'intermittence et l'intermittence du spectacle aussi. Il faudrait dire beaucoup de choses par rapport au code du travail, etc. Bon, ça, c'est peut-être quelque chose d'un petit peu plus technique ou économique. Mais en tout cas, l'intermittence du spectacle, c'est une forme d'assurance chômage, si vous voulez, je le fais brièvement, une forme d'assurance chômage qui vous permet, lorsque vous ne travaillez pas, de continuer à être payé parce que ce ne sont pas des fonctionnaires. Donc il y a des mois où ça marche mieux que d'autres et l'assurance chômage, justement, permet de rémunérer ces artistes à hauteur de ceux qui travaillent. Voilà, de ceux qui travaillent. Et en même temps, ça leur permet de pouvoir vivre de leur musique et pas simplement de la faire vivre. Parce que la différence, elle est là. De suite, on pose la question aux musiciens. « Ah, mais t'es musicien, t'es professionnel, est-ce que t'arrives à en vivre ?» Et des fois, on pourrait mieux de répondre « Je la fais vivre, la musique, mais elle n'arrive pas à me faire vivre. » Pas forcément, en tout cas. Donc, de son côté, le musicien, parce que là, je vous ai parlé du monde des musiques actuelles, etc. De son côté, le musicien de ce secteur n'a pas véritablement de formation non plus pour analyser le monde professionnel dans lequel il pense faire carrière. Ne demandant pas de droit d'entrée particulier pour jouer de la musique, un certain niveau technique de savoir-faire, composition, interprétation, arrangement, ça, on ne le demande pas forcément, ce monde voit arriver de plus en plus de jeunes musiciens sur le marché du travail, sur le marché du concert et de la programmation. À part les profs, parce que quand on fait de la musique, on peut être professeur aussi, à part les profs qui ont été formés à une réflexion pédagogique, par exemple, mais on connaît aussi la différence entre les professeurs de musique et l'artiste musicien, eh bien, c'est difficile de vivre de la musique, ou en tout cas, d'être un intermittent du spectacle quand on n'est pas connu. Et des fois, ce sont parfois les mêmes individus qui sont professeurs et qui espèrent un artiste. Bon, alors après ça, ce sont des régulations psychologiques, c'est-à-dire, je suis musicien, je joue de la musique, mais est-ce que je suis engagé dans ma vie d'artiste, enfin, est-ce que je suis engagé d'un point de vue professionnel dans ma vie d'artiste, ou beaucoup plus engagé d'un point de vue professionnel dans l'enseignement ou dans la pédagogie? Mais enseigner une pratique, ce n'est pas synonyme de pratiquer et de réfléchir à l'évolution et à la place de cette pratique particulière dans la société. C'est-à-dire, si je suis enseignant, est-ce que je veux faire de l'enfant à qui je veux enseigner, ou du jeune à qui je veux enseigner, un super interprète, une étoile, un être surdoué? C'est une vraie question. Ou est-ce que je veux lui permettre d'avoir une pratique culturelle, histoire de s'ouvrir à d'autres pratiques culturelles qui sont autour de la musique, c'est-à-dire des pratiques culturelles qui consistent à lire une biographie d'un de ses musiciens préférés, qui sont, voilà, tout, la culture musicale. Voilà, la culture musicale, c'est aussi ça. C'est pas simplement collectionner des disques ou collectionner des listes ou des playlists sur un MP3, c'est aussi s'intéresser à la vie des musiciens, et pas seulement avec Salut les copains ou d'autres revues qui sont en fait beaucoup plus des histoires de vie psychologiques que la composition elle-même ou l'esthétique dans laquelle se situe l'artiste. Et pourtant, ils sont au courant, ces grands artistes, ces grandes stars sont bien au courant, mais elles continuent à faire fonctionner leur système parce que ça marche. Tant qu'ils ne reçoivent pas des tomates, ou tant qu'ils font ça le comble, c'est sûr qu'ils ne vont pas se mettre en question. Alors, je parlais tout à l'heure de la chanson. Ben, la chanson, on l'avait vu aussi avec notre ami Béard et Gainsbourg, elle peut être noble dans une production populaire. J'ai cité, par exemple, Brel et Brassens, qui sont, par exemple, des valeurs sûres de la chanson française. Alors, la chanson française, c'est une étiquette un petit peu symptomatique de la France. C'est-à-dire, je vous parlais tout à l'heure du voyage réussi, ou en tout cas de l'intégration réussie, c'est important, de la musique afro-américaine, donc noire américaine, aux États-Unis même, mais pas que aux États-Unis d'ailleurs, parce que les afro-américains, c'est aussi dans toutes les Amériques, en tout cas en Amérique du Sud. Donc, la société, c'est ce que certains ethnologues ont appelé, ceux qui ont étudié là-dessus, c'est par exemple Bastide, Roger Bastide, Les Amériques Noires, qui est un très chouette livre où il essaye d'étudier les survivances de la société africaine en Amérique du Sud. C'est pour ça qu'il appelle ça les Amériques Noires. Donc il parle de métissage. La notion de métissage, enfin en tout cas Bastide est souvent évoquée pour parler de la notion de métissage. Et c'est vrai que quand on a un monde musical qui est en crise, qu'est-ce qui se passe? Mais vous remarquez que quand un monde musical est en crise, il est obligé de réfléchir. Donc la production de la réflexion est due aussi à un monde en crise. Le monde des musiques du monde, si vous voulez, est un monde qui réfléchit beaucoup. Parce qu'il est tenu aussi, et particulièrement à Paris, par les anciens de mai 68, ou ceux qui ont continué en tout cas, les journalistes de gauche, qui essayent de défendre les musiques du monde, c'est-à-dire les musiques des étrangers. On va faire venir des étrangers en France pour faire découvrir une culture. Alors, ça ne veut pas dire forcément que ça se fait de manière sans exotisme. C'est-à-dire que, par exemple, il y a eu des choses un petit peu bizarres. D'aller chercher des pygmées dans la forêt centrafricaine et de les faire jouer, par exemple, au Théâtre de la Villette à Paris. Donc là, si vous voulez, ils étaient ingérables, parce qu'ils n'avaient pas la notion du spectacle. C'est que si nous, occidentaux, français, nous devons aller voir un spectacle de musique du monde, ou en tout cas un concert de musique du monde, il faut que ce soit sous forme de spectacle. Parce que si on n'y connaît rien, on s'emmerde dur. Excusez-moi l'expression. Moi non. Mais bon, c'est autre chose. Mais si on voit des pygmées en train de reproduire leur rituel sur scène sans une forme de spectacle, de suite on va se demander ce qui est en train de se passer. Eh bien, le problème, c'est pas ce qui se passe sur scène, c'est nous. C'est nous dans notre réception de ce que nous recevons. Si nous ne nous interrogeons pas encore une fois sur ce que nous voyons, il y a de fortes chances qu'on juge mal, ou en tout cas qu'on se trompe dans la forme de jugement. Donc, ça c'est assez étrange ce qui se passe. Et il y a une forme, quelque part, de néocolonialisme culturel sur ces musiques-là, c'est-à-dire que même ceux qui les défendent, ça ne leur empêche pas d'avoir une prédisposition à avoir un néocolonialisme, même s'il se fait passer pour humaniste. Pourquoi, par exemple, les Pygmées ne font pas de musique contemporaine? Pourquoi la musique contemporaine a-t-elle du mal à exister en Afrique? Est-ce que c'est, comme le dit Sarkozy, parce que l'Afrique est en retard sur son histoire, ou parce qu'elle n'a pas d'histoire? Ce sera assez terrible.
Donc vous voyez, on est bien au-delà des goûts musicaux. On est plutôt dans un désir de compréhension des musiques. Ce qui ne m'a pas empêché, comme je vous expliquais aussi la dernière fois, je vous en parlais, d'avoir vécu et joué avec des musiciens, ou en tout cas des cultures musicales dont je ne faisais pas partie. C'est ce qu'on appelle en ethnologie l'observation participante, c'est-à-dire le fait d'être dedans, de jouer et de participer et en même temps d'observer. Bourdieu a dépassé l'observation participante en parlant d'objectivation participante. Bon, objectivation participante, encore une fois, c'est un exercice spirituel, c'est-à-dire, on parlait la dernière fois aussi, de changer de corps. Qu'est-ce que c'est que de changer de corps? Et bien en fait, si vous ne changez pas de corps, c'est-à-dire si vous n'arrivez pas par mimétisme à essayer de danser comme font les pygmées, par exemple, ou à essayer, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Ou à essayer de danser, mais quelque part, vous faites peut-être de la salsa ou des danses exotiques, ici en France, par l'enseignement qui est distribué. Bon, mais changer de corps, ça veut dire déjà commencer à imiter. Voilà. Et pour ressentir ensuite, c'est ça, changer de corps. Mais c'est une volonté personnelle. Et puis d'ailleurs, si vous ne changez pas de corps, la vie vous fera changer de corps quoi qu'il arrive. Donc l'intérêt, c'est peut-être de changer consciemment de corps. Et qu'est-ce qui fait changer le corps? Eh bien, l'appartenance à une catégorie sociale aussi. Ce qui fait changer le corps, enfin, le corps travaille pour vous, hein, c'est-à-dire qu'il travaille pour vous, pour nous, hein, bien sûr, c'est pas que pour vous, pour nous inconsciemment, donc il fabrique des choses qu'on accumule au fil du temps, c'est ce que je vous disais, les propriétés, les goûts, les biens, etc., les visions aussi. Donc si ce corps travaille inconsciemment pour nous, il faut essayer de le contrôler, du moins de savoir qu'est-ce qu'on apprend, qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qui nous intéresse, qu'est-ce qui ne nous intéresse pas. La chanson française, j'en étais là. La chanson française, la France. C'est bizarre de commencer une phrase avec la France. Vous essaierez de coucher vous devant la classe. La France. Pardon. Donc la France. Quand on dit par exemple la chanson française. Quand on dit par exemple, c'est quoi la musique française? Alors on a bien du mal à répondre. La musique française. Pardon?
L'accordéon.
Oui, oui, ça, c'est un instrument. L'instrument de la musique française. Tout à fait. Voilà. Et alors, tout ce qui n'en joue pas, alors c'est pas de la musique française, par exemple. On peut se demander. Voilà, effectivement.
C'est de la musique italienne, la Renaissance, du coup, la musique française.
Voilà. Bon, on pourrait dire que la musique française, c'est l'accordéon. Dommage pour nous, parce que c'est fini. Mais bon. C'est même pas les yéyés, l'accordéon c'est bien avant encore. Donc alors, la musique française c'est quoi? Par contre, si vous, c'est un constat, on ne sait pas quoi répondre. Si, vous avez répondu, bien évidemment, mais changeons de point de vue, c'est-à-dire, regardons autour de nous, les gens sont bien embêtés de répondre à la question, c'est quoi la musique française? Pourquoi? Parce qu'on parle de chansons françaises, on ne parle pas de musique française, d'un point de vue quantitatif, je veux dire. En revanche, si vous dites c'est quoi la musique anglo-saxonne, là de suite, même si vous ne citez pas, comme vous avez cité l'instrument, etc., la musique anglo-saxonne ou la musique américaine, de suite vous savez ce que c'est, la musique. Vous ne pensez pas forcément à la chanson américaine ou à la chanson anglo-saxonne, bien qu'elle en fasse partie, on est d'accord. Donc là il y a un problème sur la... D'ailleurs c'est Rousseau qui disait que la musique française n'existait pas. Bon alors Rousseau c'est avant l'accordéon, mais on est d'accord. Et Rousseau disait par exemple la musique française n'existe pas. Bon, on est avant le 19e siècle aussi, on est avant Berlioz, etc. Mais la formule est marrante. Donc la musique française, on ne sait pas ce que c'est. Eh bien, moi je formule l'hypothèse qui consiste à dire que si la musique française, on ne sait pas ce que c'est parce qu'on a peut-être loupé l'intégration de tous les pays que nous avons colonisés. Si, aux États-Unis, si, on a... Dans les Amériques, la culture afro-américaine a réussi, d'un point de vue artistique, à se mélanger, particulièrement musical, avec la population blanche, et que nous, qu'avons-nous fait? La musique arabe, c'est la musique arabe. Ben, dois-je rappeler la guerre d'Algérie? Bon, c'est quand même assez violent. Donc on l'a fait par petites touches, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, d'un point de vue exotique, on l'a fait, mais il n'y a pas forcément une réflexion sur les rendez-vous manqués de l'art ou de l'histoire de la musique en France.
parce qu'il y a des rendez-vous manqués. Donc le travail de fiction musicale, ça serait justement d'essayer de considérer ces rendez-vous manqués esthétiques et de les réintroduire dans une forme de musique qui aurait oublié, qui aurait loupé les rendez-vous. C'est ça le travail de fiction. Alors, quelqu'un l'a fait un peu, c'est Gainsbourg. Notamment à ses débuts, avec les hommages qu'il rend, par exemple, avec les instrumentistes avec les Wailers, dans Aux Armes, etc. Voilà. Aux Enfants de la Patrie. Voilà. Tout à fait. C'est vrai qu'il l'a fait, puis lui, il n'a pas hésité. On pourrait citer Nougaro aussi. Nougaro qui a travaillé, par exemple, avec des Brésiliens à un moment, qui a utilisé d'ailleurs des instruments brésiliens aussi. Bon, mais dedans, il y a le berimbau, qui est un art musical qui vient d'ailleurs d'Angola, donc une survivance de la culture africaine au Brésil. Angola, on parle portugais, Brésil aussi, ouais, ça y est, voilà, pour le voyage. Et puis, en même temps, Lavilliers qui l'a fait aussi. Voilà, Lavilliers aussi qui l'a fait, mais plus dans un esprit rock. Donc, il n'y a pas forcément de démarche critique à ces musiciens-là. Peut-être que Nougaro beaucoup plus. Mais, il faudrait voir encore. Mais il n'y a pas eu de démarche critique qui a consisté justement à transformer l'esthétique de la musique. Ce sont des petites touches, on pourrait dire des hommages, mais si on est un peu méchant, un peu, hein, pas beaucoup, on pourrait dire que ce sont des copier-coller. En revanche, cette intégration, comme le jazz, comme ce mélange justement entre la funk et la disco, donc disco qui est plutôt un mouvement blanc, la funk qui est plutôt un mouvement noir, tout ce mélange qui s'est fait, il s'est fait sur la musique. Pas seulement, bien évidemment, mais sur la musique, donc le travail musical.
Est-ce que l'évolution de la musique d'un pays...
Vous pouvez parler plus fort ?
Est-ce que l'évolution de la musique d'un pays doit forcément passer par l'intégration de, on va dire, d'une ethnie qui vit dans ce pays ?
Si on est les dominants, je trouve que c'est la moindre des choses.
Les États-Unis, les Noirs étaient en proportion à l'époque beaucoup plus nombreux que chez nous. Aux années 60, par exemple. Il y avait tellement plus de Noirs aux États-Unis que chez nous, en les années 60, il n'y en avait pas tellement. Donc c'était plus dur pour eux de se faire entendre et nous d'approprier leur culture.
Alors,
ça, c'est une raison aussi, on va dire démographique.
Oui, ou en tout cas. Oui, tout à fait. En revanche, c'est vrai que. Alors, si on fait la. Bien évidemment, si on va un peu plus dans le détail. En tout cas, si on va un peu plus dans le détail, je vous parle d'une situation qui n'a pas existé en France, c'est-à-dire ce qu'on appelait l'apartheid. Bien sûr. Bien évidemment. Bien évidemment. Mais il n'empêche que cette population, en l'espace de 100 ans, a créé quand même tout ce qu'on utilise aujourd'hui comme principe de vie. Du jazz jusqu'au hip-hop. Pas du jazz, du blues jusqu'au hip-hop. C'est-à-dire fin du 19e jusqu'à, quelque part, la fin du 20e. Bon, en tout cas, ce sont des choses qui auraient peut-être pu nous inspirer avec les mouvements intellectuels que nous avons eus en France. C'est-à-dire de rupture avec une forme de colonialisme, de réflexion avec le fait que nous soyons dominants et que nous soyons, justement... et de l'intégration de cette population. Hein, je vous rappelle quand même que, par exemple, ce n'est qu'un exemple, mais la télévision, on ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup de présentateurs qui soient des présentateurs de couleur ou des présentateurs du Maghreb ou des présentateurs arabes. Ou alors, quand ils le font, c'est par condescendance, justement, pour que... Enfin, c'est pas la théorie du complot, c'est pas du tout ça. Hein. Mais c'est par contre... C'est la tendance, voilà, c'est la... Voilà, on l'a fait, etc. Bon, mais je suis désolé. Vous regardez les sociétés afro-américaines, vous regardez les sociétés, pardon, américaines, ce métissage est omniprésent. Cette présence est omniprésente. Certes, c'est l'histoire. Sauf que c'est l'histoire, mais nous avons loupé le rendez-vous, en tout cas. Parce que cette histoire-là est terminée. Cette histoire-là est terminée. Elle est terminée parce que nous sommes à la fin des colonialismes anciens, sous forme d'humanisme, etc. C'est terminé. On est beaucoup plus dans un colonialisme économique, beaucoup plus dans un colonialisme, d'ailleurs qui ne dit pas son nom, un néocolonialisme, qui consiste justement à penser, à étouffer les particularités et les particularismes. Enfin, les particularités, je préfère dire. Le particularisme, ça peut faire penser aux minorités. Et quoique. Donc voilà. Donc c'est la question que je pose en tant qu'artiste et sociologue, si vous voulez, ou en tout cas artiste praticien de la sociologie, c'est que pour moi, l'important, c'est l'esthétique populaire. C'est ce que tout à l'heure on a vu avec Bourdieu, c'est-à-dire une critique vulgaire de l'esthétique pure. Bon, ça peut exister. Lui-même dit, il appelle ça le retour du refoulé. Je pense qu'il faut, sans être porte-parole, organiser le retour du refoulé, et particulièrement de celui qui a été refoulé, donc notre propre refoulement. Moi, je suis né à la fin des années 60, je n'ai pas du tout été élevé dans un contexte de métissage, je viens plutôt de la campagne, des Landes. Eh bien, est-ce que je n'ai pas une responsabilité, et quelle forme de responsabilité, avec les premières indépendances africaines des années 60, c'est-à-dire tous les pays que nous avons colonisés. Voilà. Donc ça veut dire que travailler sur soi, c'est aussi réinventer l'histoire refoulée des grandes choses, la grande histoire, celle qu'on nous a appris. Et vous imaginez que le travail doit être encore plus dur quand on vous a dit que vos descendants étaient gaulois. Encore, ça c'est encore plus difficile. Bref, en tout cas, je vous ai parlé, là, vite fait, des musiques du monde qui font partie des musiques actuelles, mais on pourrait encore, avec le rock, on pourrait encore, sur cet aspect de la chanson française, ou en tout cas, de la musique française. Moi, personnellement, dans le travail que je fais avec mon groupe, et tout le travail que je mène, c'est le travail, justement, de rupture avec ce refoulement. C'est un travail de réhabilitation et de retour du refoulé dans l'esthétique musicale. C'est-à-dire que comme j'ai vécu aussi avec eux, que j'ai changé de corps, je me dois quelque part de leur rendre hommage particulièrement dans ma musique. Ce qui n'empêche pas l'imagination, bien évidemment, et la création. Parce que quand on a fini d'imiter, il est peut-être temps de devenir adulte, après avoir imité. Mais voilà.
Et la French touch par
rapport à la... La French touch.
Ce qui veut dire que c'est la musique française, c'est...
Ben, je vous répondrai par une autre question, c'est quelle musique française? Alors je sais pas si c'est un concept ou si c'est un véhicule de marché. Mais oui, vous avez raison. La French touch, oui, c'est vrai qu'on en parle. La touche française. Peut-être qu'ils sont tous cuisiniers, remarquez. Oui, sans doute du marketing, oui. Mais peut-être pas aussi, c'est ça qui est difficile à démêler, c'est qu'on peut peut-être pas dire qu'il n'y ait pas une French touch, mais il faudrait peut-être l'analyser un peu plus profondément pour voir qu'est-ce que... Vous pensez par exemple à la musique ou à autre chose?
Oui, elle est souvent plus entonnée à la musique électronique.
Voilà, la musique électronique par exemple, oui. C'est exact.
Si on est écouté dans la musique électronique...
Oui, oui. Je suis au courant. Mais alors, avec les deux doigts dans la prise. Voilà, donc il y a des questions qui sont posées sur la chanson française, ou en tout cas, ce monde-là. Je n'ai pas le temps d'aborder tout plus précisément ça, parce que c'est vrai que c'est pas que ce soit complexe, mais disons qu'il faut développer des exemples, etc. Là, on est dans le cadre de l'esthétique, ce goût pur, etc., et particulièrement dans, je vous le rappelle, c'est ça que dont j'ai voulu parler en tout cas dans l'enchaînement, c'est l'expertise d'un artiste quand on est justement programmateur, ou en tout cas qu'on se sent autorisé à dire ce que l'artiste est ou ce qu'il n'est pas, ou ce que sa musique est ou ce qu'elle n'est pas. Voilà. Et le fait de ne pas apprécier, et là on revient à la musique qui ne dit rien ou n'a rien à dire, c'est une reproduction inconsciente, quelque part, de la part des programmateurs. C'est qu'un musicien, il ne doit pas avoir de discours. C'est pour ça que dans la chanson française, on a déjà le discours, puisque c'est de la parole. Donc ça suffit. Mais un discours supplémentaire à tout ça, ça ne plaît pas. Voilà. Donc il y a une espèce de reproduction, une forme de reproduction, de renoncement à concevoir l'artiste comme un pouvoir potentiel de critique. L'artiste musicien, entendez, hein. et pas seulement sur le fait qu'il soit instrumentiste, mais qu'il propose un projet collectif. Parce que, à l'époque, par exemple, de l'autonomisation de l'art et de l'artiste au XIXe siècle, Flaubert connaissait Baudelaire qui connaissait Gautier, etc. Si on veut vraiment autonomiser un champ, c'est-à-dire un champ, un monde social, c'est-à-dire créer ses propres lois, il faut du monde. Il faut du monde. Parce que l'histoire ne s'est pas faite avec un seul individu, l'histoire qui nous impose ce qu'elle nous impose, c'est-à-dire la légitimité, ne s'est pas faite qu'avec un seul individu, elle s'est faite avec beaucoup d'individus, donc ça met du temps. Et tout ce qui est détruit mettra le double de temps à revenir. Donc tous les acquis sociaux, etc., qui sont détruits, ça mettra encore beaucoup plus de temps, on ne sera plus là quand ils reviendront, hein, je vous rassure, peut-être. On ne sera plus là quand ils reviendront, mais ça prend beaucoup plus de temps. Parce qu'il faut sans cesse lutter pour conserver ces formes de lutte, ou en tout cas les acquis. Et là, cette phrase, ce n'est pas simplement du militantisme, hein. C'est aussi une forme artistique, c'est dans le monde de l'art, c'est peut-être dans le monde de certains qui travaillent dans la publicité, c'est dans le monde, etc., etc. Dans tous les mondes, il y a des luttes à mener quand elles sont possibles, bien sûr. Quand elles sont possibles, ou en tout cas, quand vous vous sentez en responsabilité de les mener. C'est sûr que pour cela, c'est plus difficile d'être salarié. Quand on est salarié, c'est plus difficile quand on est salarié que quand on est patron. Les patrons engagés, on peut en connaître, ça existe. La place prépondérante laissée au goût, c'est ce que je disais, et à l'absence de réflexivité, ben tout ça, ça tire un peu les ambitions artistiques vers le bas. L'alliance avec le sociologue ou l'ethnologue, quelque part, autoriserait une analyse sur le produit musical, sur le marché, sur le rôle que le marché d'offre et de demande, ou les marchés, le rôle de l'artiste, et s'intéresser aux autres cultures musicales permettrait aussi un décentrement pour mieux comprendre les fonctionnements. Je vous parlais tout à l'heure des États-Unis, je l'ai cité ici, je l'ai remis là dans la continuité, c'est un melting pot, c'est pas pour rien qu'on parle de melting pot, hein, c'est un melting pot qui a donné d'autres formes artistiques où les expérimentations libérées de toute contrainte sont valorisées. Ce sont des expérimentations sociales, que ce soit le boogie-woogie, que ce soit le ragtime, c'était des expérimentations sociales qui ne sont pas nées dans les grandes institutions ou les académies, mais qui sont nées soit dans la rue, soit dans les cafés-concerts, qu'on appelait aussi les caves. Enfin, les bouges, qu'on appelle bouges aussi. Enfin, quand on dit bouge, oui, c'est que ça bouge. Mais il y avait aussi, effectivement, l'alcool, la drogue et les prostituées. Et oui, on vient de là. Soyez pas choqués. Donc l'artiste est reconnu comme artiste. Aux États-Unis particulièrement, l'artiste est reconnu comme artiste. Les gens qui jouent de la musique sont respectés, véritablement. Et on sait à quoi ça sert, d'être respecté en tout cas en tant qu'artiste. Ça nous permet aussi, sans avoir besoin de réfléchir sur son rôle, d'accepter le rôle qu'on nous donne en tant qu'artiste respecté. Donc là, on pourrait dire que la globalisation ou la mondialisation a mis en danger ses acquis, qu'il a fallu arracher, et qu'il faut encore arracher aujourd'hui en tant qu'artiste en France. C'est là où l'artiste musicien qui pense sa pratique et essaye de la divulguer, il compte aussi sur le public. Il compte sur le public pour comprendre son travail, au-delà de la musique. Or, cet intérêt pour l'œuvre, comme pour l'auteur, est sapé par l'intérêt du style ou de l'étiquette. Je préfère tel style, je préfère tel genre. Plutôt que de s'intéresser à un auteur ou un compositeur, on préfère un style. Qu'est-ce que tu écoutes comme style de musique ? Rarement on répond « j'écoute un tel » ou « j'écoute un tel ». Donc la notion de l'auteur, on redescend à ce que justement la Renaissance a réussi à supprimer, c'est-à-dire l'anonymat. On revient à l'anonymat par la liste justement qu'on va prendre, et puis si jamais on retient quelqu'un, de toute façon, il est fort possible aussi qu'il ne fasse qu'un seul titre et qu'on n'en entende plus jamais parler. Donc ça crée un monde anonyme qui est affecté par un manque de reconnaissance. Quelque part, rencontrer un artiste, c'est réaliser le goût d'une relation fraternelle. Comprendre la place qu'il défend, c'est aussi se sentir concerné. C'est une forme de femme, si vous voulez. Sauf que c'est apparemment une relation éclairée et fraternelle. Bon, c'est pas... Alors, Si c'est pas le fan, c'est le gourou, là. Relation éclairée et fraternelle, ça fait un peu peut-être gourou. Mais bon, vous ne pensiez pas à ça, donc vous l'oubliez, hein, vous l'enlevez, même si je viens de le dire. Donc quand on comprend la place qu'un artiste défend, on se sent concerné parce qu'on la comprend. Et le sociologue et l'artiste, on pourrait dire que c'est une sorte de solution pour mieux contrôler ce qu'on fabrique, ce qu'on crée, et pourquoi on fait ce qu'on fait. Ça donne des outils pour analyser la musique, donc le désenchantement est plutôt positif. Enfin, positif. Oui, en tout cas, il n'est pas méchant, pour utiliser les termes enfantins un peu. Le désenchantement n'est pas quelque chose qui empêche le plaisir. Et la place est laissée au goût quand même. Parce que ce n'est pas parce qu'on travaille sur les goûts que la place au goût n'est pas laissée. D'où l'intérêt de s'intéresser au goût. Et pour le public, comprendre ses propres goûts, c'est quelque part être libéré de certains déterminismes pour pouvoir rencontrer l'artiste. Donc le public est capable de comprendre le travail d'un artiste, à condition qu'il pense que qu'il a affaire à un artiste en face de lui pour lequel il sent. Bon, malheureusement, bon, ça me plaît aussi le fait de dire sentir, mais pour lequel il sent qu'il se passe quelque chose, ou du moins retrouver le goût de la curiosité, le goût de la curiosité et le goût de la disponibilité, de façon à ce que on se sente concerné et que on rencontre dans l'artiste une forme de soi qui est un engagement aussi, puisque je pense que nous sommes tous engagés, qu'il s'agisse de l'éducation des enfants ou de la vision qu'on a sur nos amis, ou etc. C'est une forme d'engagement. Voilà. Merci, je vais arrêter là.